Flamme Parpaing numéro 12. Entretien avec Miguel Constantino le 11 juillet 2015 à Baléal, aux abords de Péniche, au Portugal.
Dans la vie, je sais pas, mais en tout cas, du point de vue créatif en musique et en photographie, c'est un truc que j'utilise, je pense, beaucoup.
Tu veux faire des exemples? Tu veux en parler plus?
Des exemples en musique, c'est par exemple, En termes de création sonore, il y a plein de choses qui viennent d'accidents, en fait. C'est-à-dire que tu essayes un truc et en fait, parfois tu mets un câble mal et ça fait un son intéressant. Et du coup, tu vas essayer de creuser vers là, alors qu'au départ, c'était pas l'idée, ou c'est même pas l'utilisation correcte de l'instrument, tu vois. Ça, c'est intéressant, de détournement et de... Et laisser faire les choses, tu vois, laisser venir et créer à partir de d'accidents, d'erreurs, d'expérimenter. Après, ce qui m'intéresse toujours, c'est comprendre pourquoi ça marchait pas, tu vois. C'est un truc que j'ai toujours fait, pareil en photo ou en musique, c'est que techniquement, tu peux te baser d'une erreur ou d'un accident ou tu vois, ça te crée un son intéressant ou une lumière intéressante. Mais l'idée c'est de pouvoir la reproduire. Et du coup, ce que je fais beaucoup c'est que j'expérimente, j'essaie des choses, je prends plein de notes pour savoir exactement ce que je fais. Et après j'essaie de comprendre pourquoi j'ai eu cet accident ou comment j'ai... Pour réussir à le recréer.
C'est marrant ça.
Et l'utiliser comme un outil, tu vois. Le transformer comme un quelque chose qui devient un outil à part entière. Du coup, j'ai tout le temps cet aller-retour entre l'expérimentation, la théorie, réexpérimenter pour recréer les accidents, revenir sur la théorie pour comprendre pourquoi et comment ont eu lieu ces accidents, ou pourquoi. Et ensuite pouvoir les recréer juste quand tu as envie, quoi.
Et à quel nom tu donnes à ces accidents recréés?
Je sais pas. Aux accidents recréés.
Un accident, c'est un impromptu.
Ouais.
Quelque chose qui... Un jack mal...
Ouais, c'est l'exemple le plus simple, on va dire. Mais après, ça va être beaucoup plus subtil que ça, tu vois. Mais oui, en musique, par exemple, ou avec un instrument, tu fais un mauvais câblage avec des pédales ou des choses comme ça. Et tout d'un, t'as un truc intéressant ou un truc que t'as jamais entendu avant. Et c'est parce que t'as fait une connerie. Parce que j'aime pas lire les manuels. Juste si je vois des trous et des câbles, c'est les brancher ensemble et voir ce que ça donne. S'il me faut lire 40 pages de manuel pour comprendre comment ça marche, ça m'embête. C'est que quelque part l'ergonomie est pas bonne. Comme les appareils photo, tout le monde me demande pourquoi j'utilise que du film et des vieilles machines. C'est parce que la première chose, c'est que je trouve ces vieilles machines vraiment agréables à avoir en main. Et que presque n'importe quel appareil argentique, je vais le prendre en main et je vais réussir à l'utiliser sans lire le manuel. Et là, je parle de machine, justement, manuelle, pas d'autofocus. Et juste, tu fais ton ouverture et ton temps, et puis tu fais une photo. Et tous les appareils fonctionnent pareil, plus ou moins. Très vite, avec une nouvelle caméra, je vais réussir à faire quelque chose. Parce que quand je vois une machine, un appareil photo digital, j'ai juste pas envie. Il y a plus des boutons partout, il y a un écran pour 40 menus. Ça me fait pas envie, c'est pas sexy.
Et en photo, ce serait quoi les accidents?
C'est alors je les trouve un peu plus contrôlés en photo. Enfin, je sais pas trop. C'est j'aime vraiment bien expérimenter avec les le choix des films et les traitements. Et c'est pas vraiment des accidents parce que c'est technique finalement très connue, je pense. J'invente rien. Hein. C'est comme tout ce qui est traitement croisé et pousser les films, des choses comme ça. C'est juste ça hyper intéressant d'expérimenter avec ça. C'est vrai que d'utiliser. Après, je n'ai pas eu des trucs trop techniques, mais. C'est pas non plus du détournement, mais. C'est. Comment dire? Comment expliquer ça? J'ai pas préparé, tu vois. Ouais, les accidents en photo sont pas les mêmes. Après, il y a des accidents parce que tu utilises des machines, des appareils photo. Enfin, tu vois, tout ce qui est, disons, peut-être l'homographie, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça chiant. C'est. Alors que en photo, tu peux avoir des accidents parce que. Je sais pas, j'essaie de pas trop penser quand je prends la photo. C'est-à-dire au moment où je le prends, en fait. Je prépare souvent les choses, surtout quand si je vais dans l'eau avec un appareil photo. C'est comme, il faut beaucoup de préparation, savoir quel film tu vas mettre, comment va être la lumière, où est-ce que tu vas te placer. J'ai souvent une idée en tête, en général. Et après, donc je me dirige vers cette idée. Et après, par contre, j'essaie d'être assez spontané, quitte à aller complètement ailleurs. C'est peut-être là, du coup, ces accidents où. Où tu. Ouais. T'as un plan, mais t'hésites pas non plus à prendre un autre chemin et voir ce qui se passe, quoi. Quitte à être complètement à l'ouest, tu vois, avoir un résultat. Mauvais, et puis du coup tu recommences, tu fais autre chose, et tu vois. Mais ouais, j'aime bien l'expérimentation par moi-même de faire des erreurs en fait, et de voir ce qu'il en sort. Parfois il en sort rien du tout, et du coup tu sais quoi. C'est intéressant de savoir de ce que tu veux pas faire. Des fois, moi je trouve ça hyper dur de savoir ce que je veux faire. Précisément, tu vois, quand je dis je prépare une chose, j'ai une idée, donc souvent j'aime bien essayer d'avoir un plan et m'y tenir, mais finalement je sais pas trop ce que je veux faire, mais je sais exactement ce que je veux vraiment pas faire. Mais du coup, t'as une espèce d'éventail comme ça qui se réduit, plus tu sais ce que tu veux pas faire, et tout d'un coup, et après, entre c'est un peu comme dans un flipper, tu vois, j'ai l'impression d'être. Je tape d'un côté à droite, à gauche, et puis au bout d'un moment, je vais où je veux.
Jusqu'à ce que tu reviennes en bas et tu repars.
Ouais, quitte à repartir et tenter autre chose, quoi. Et puis des fois, tu arrives en prenant deux chemins différents, tu arrives au même point. Et du coup, enfin. Ça peut être à la fois technique ou juste créatif ou. Mais il y a des choses qui se recoupent et qui. Ouais, c'est. Parce que ça s'applique à la fois à l'expérience purement technique, tu vois, juste de savoir comment un micro fonctionne, comment un appareil photo fonctionne, comment. Créer l'émulsion sur un film, et à la fois dans la partie purement créative de créer un truc personnel et tes goûts.
Mais tu la penses comme ça, ta vie aussi ? Tu penses que ta vie, elle est faite d'accidents et de réponses à ces accidents et de...
Ouais, sur, probablement, ouais.
Après, c'est un accident, tu vois comme ça aussi, quand même. C'est un accident, enfin, c'est le résultat d'un accident, le fait que tu sois là, etc.
Ça, je sais pas. J'essaie pas le penser de cette manière, mais... Après...
Ce serait sympa de voir l'étymologie du mot accident.
Ouais.
Je sais pas quelle est l'étymologie.
Au niveau... Si tu rapportes ça à la vie, les accidents, je sais pas du tout. Je crois que j'ai pas d'avis sur le truc, quoi. Ouais, là je sais pas. Autant du point de vue créatif, je trouve que ça me sert et ça a du sens. Et autant le reste, ça s'appellerait pas ça accident en fait, mais je sais pas comment l'appeler. C'est parce que si j'appelle ça accident, c'est juste c'est que des accidents, quoi. Tu vois. C'est, comment on définit... C'est... Ouais. Pas beau, toi, t'as un accident.
Tu m'as raconté un accident aussi, c'est un accident du
chien. Du chien, ouais. De mon copain Jean. Ouais. Là, c'est un vrai accident, c'est pas... C'est fait... C'est pas un faux, c'est fait éclater par une voiture et a eu la patte cassée.
Et ton rapport au chien, ça date de quand?
C'est important pour toi? Ouais, c'est pas seulement les chiens, c'est juste les animaux en fait. C'est vrai que ça a été des chats, des... Là, en ce moment j'ai 3 chiens, mais... J'ai vécu avec des chats, oui Pablo. Ouais, c'est... C'est important. Vraiment. Si tu vis avec un chien, c'est... Après c'est dur de pas tomber dans les clichés quand on parle, tu sais, de l'ami fidèle et... comprend mieux que les hommes, tu vois, mais c'est assez vrai en fait que ouais, c'est toujours super honnête, quoi. C'est
et la mère, c'est pareil.
La mère...
C'est un peu un ami fidèle aussi.
C'est pas vraiment un ami. Quelque part. C'est... C'est un défi, quoi. La mère. C'est-à-dire que quand tu t'y es un peu habitué... Enfin... Surtout en... On va dire en... En surf, il y a des jours où... tu vas aller chercher un peu... tes limites, et là ça devient c'est très force à l'humilité, quoi. Donc c'est jamais toi qui gagne sur l'océan, tu vois. C'est ça peut être vraiment très dangereux facilement sans s'en rendre compte en fait. Et dangereux de façon. Tu peux te noyer facilement. Donc. La plupart du temps, il n'y a aucun danger, tu vois. C'est juste. Tu te fais brasser au pire. Tu tapes un rocher, ou au pire, tu finis avec quelques points de suture. c'est pas mortel, mais il y a certains jours où ici juste en face là, dans la baie, un hiver, j'ai cru que j'avais perdu un ami. Il a disparu en mer. Il est parti, c'était là. Vraiment une grosse tempête. Il est parti en kitesurf tout seul à l'eau. C'est quelqu'un qui est vraiment un très très bon nageur et je pense que c'est ce qui l'a sauvé. Et qui a une très bonne condition physique et qui a l'habitude de ce genre de conditions. Et ça fait bizarre, on l'a vu disparaître. On a vu juste la voile. Il y avait vraiment des... C'était vraiment gros, je me rappelle plus trop de la taille, mais c'était vraiment... Il n'y avait personne à l'eau. Il y avait une houle énorme. Et à un moment, on a vu la voile partir avec le vent et il n'était pas au bout de la voile. Et je ne sais pas si tu vois comment c'est un kitesurf, mais la voile peut tomber dans l'eau, mais en général, ils arrivent à la remonter très vite. Là, quand on a vu que la voile restait dans l'eau, on a compris qu'il y avait un souci, le connaissant bien. C'est très expérimenté. Et on a dû mettre 20 minutes à le retrouver, quoi. Il a dérivé d'un côté à l'autre de la baie. Le vent allait vers le nord, mais les courants allaient vers le sud. Donc en fait, on s'est divisé en deux groupes. Certains ont suivi la voile qui allait vers le nord, en se disant que peut-être il était au large et qu'il avait pu se faire assommer par sa planche ou quelque chose et qu'on allait le retrouver du côté nord de la baie. Et une autre équipe est partie vers le sud en se disant qu'il allait peut-être se faire prendre par les vagues et revenir avec le courant. Et dans des conditions énormes, une des plus grosses tempêtes de l'année. Et je pense au bout de 20 minutes, on l'a vu... 300 mètres plus bas, sortir de l'eau, apparaître. Et donc il s'est fait brasser pendant 20 minutes. Et il a survécu parce qu'en fait il a réussi à ne pas perdre sa planche. Et du coup avoir un peu de flottaison. Mais il faisait pas le malin. C'était un choc pour tout le monde et pour lui. De passer si proche. Il disait la première chose qu'il m'a dit en sortant. Il a dit, là, cette fois-ci, j'ai cru que j'allais pas revenir. Ouais. Et le connaissant, que tu sais de quoi il est capable, s'il dit ça, c'est que vraiment, ça devait être... T'avais pas envie d'être à sa place. Donc ça arrive très rarement sur deux choses. Hein. C'est en général, c'est juste on s'amuse dans les petites vagues. Mais des fois, ça arrive. Du coup, ça remet tout le monde à sa place. C'est pas mal aussi. Parce que justement, ça peut faire les malins des fois. Alors que... C'est très facile de se faire emporter dans un courant. Qu'est-ce que quelque chose arrive, même si ça arrive effectivement très rarement.
Tu vas à l'eau tous les jours?
Presque, ouais. Ça dépend des conditions, mais ici, on peut aller à l'eau. Disons qu'après moi, je sors pas des grosses vagues, je sors vraiment pour m'amuser, et du coup, même si c'est vraiment petit, j'arrive à m'amuser, quoi. Et quand c'est gros, il y a toujours un endroit par ici où c'est un peu plus abrité, où tu vas trouver aussi une vague un peu plus filtrée et protégée et qui va pas t'emporter.
Ce matin, on a croisé Ricardo.
Ouais.
Et c'est un de tes sujets de prédilection pour tes photos.
Pour les photos de... Ouais. Pour les photos de surf, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ricardo Pietra, qui est selon moi le meilleur surfeur que je connaisse. pas au sens de compétition ou quoi que ce soit, parce qu'il n'en fait pas, mais juste en termes de style et de grâce sur l'eau, quoi. Comme je te disais, moi, je trouve qu'il a une espèce de comment dire, une espèce de la danse, en fait, ce qu'il fait. À voir. Du coup, ouais, c'est intéressant à travailler. Je prends des photos, quoi. C'est...
Mais tu le photographies aussi beaucoup en dehors de l'eau ?
Ouais, parce que en fait, c'est juste parce que c'est un de mes meilleurs potes ici et je photographie surtout mes amis, en fait. Donc, c'est mon voisin. Enfin, tu sais, vu ce matin, on se passe la moitié de nos journées ensemble, même si on surfe ou... On promène nos chiens, ou donc ouais, c'est un sujet, mais comme d'autres personnes, quoi. J'aime bien photographier les gens proches de moi, en fait. C'est plus facile.
Tu photographies surtout les gens?
Ben non, c'est ça. J'essaye. J'aurais tendance à éviter les photographier, mais du coup, je me force. Je trouve ça, parce que c'est intéressant, mais c'est pas facile, je trouve. C'est plus facile d'aller photographier un mur qui va pas te faire chier, qui tu peux y aller quand tu veux et t'es tout seul. Mais du coup, en photo, j'aime bien ce truc de... Pas de, je dirais pas de confrontation, mais de... Ouais, d'aller un peu plus vers les gens que ce que je ferais naturellement, en fait.
C'est naturellement, tu vas pas vers les gens?
Non, je crois pas. Non. Dire, ouais, je ressens pas le besoin. Enfin, je sais pas comment dire. C'est. Ouais, non, naturellement, j'attends de voir ce qui se passe. Puis après, on devient amis peut-être, ou on discute, mais. J'attends pas grand-chose des gens, je crois. Et souvent, du coup, je me surprends. Enfin, je suis surpris. Il y a des bonnes surprises, mais très souvent c'est juste je préfère passer du temps avec mes chiens, ouais, qu'avoir des conversations, surtout quand ça commence à parler un peu de musique ou de photos, là j'aime pas en parler, en fait.
T'aimes pas parler de ta musique ou de tes photos?
Non, ou de musique en général, tu sais, quand les gens demandent, ah, qu'est-ce que tu fais, ah, tu fais des photos, et ils commencent à te parler de technique ou d'appareils photo, où ils te montrent leur dernier appareil photo. Je m'en fous. Montre-moi tes photos plutôt que ton appareil photo. Mais et en musique, c'est pareil. Si tu es musicien, t'as quoi comme guitare? On s'en fout. Ça m'intéresse pas. C'est tout le temps comme ça. Hein. Dans mon cas, c'est souvent la musique et la photo, ou le surf. Mais je pense que c'est pareil pour tout, quoi. C'est que, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a ce truc de... De faire avec ce que t'as, et... Je sais pas comment l'expliquer, ça, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... ce truc où... Les gens pensent que c'est le matériel qui fait, alors que c'est pas ça du tout. C'est sûr, ça aide, mais bon. Tu peux faire des trucs très bien avec peu. Justement, ces limitations, c'est hyper créatif, je trouve. Je suis venu par hasard, en fait. Quand j'ai travaillé avec avec Franck Micheletti, et sa compagnie de danse, Will I Can Investigation. Il m'a demandé de créer la musique pour une de ses pièces de danse, qui était en coproduction avec Ludica et le chorégraphe Morgan Nardi, chorégraphe italien mais vivant en Allemagne. Et Franck est gros fan de musique. Et en fait, il connaissait mon disque. Et les gens de Ludica, de l'autre compagnie en Allemagne, connaissaient aussi le disque. Et du coup, ils cherchaient un musicien pour leur création commune. Et du coup, ils m'ont contacté. Et du coup, j'ai dit oui, ça m'intéressait depuis un moment d'essayer de créer pour le mouvement. Et donc, on a eu, je crois, 8 semaines de création. Et tous les matins, les danseurs s'échauffaient au moins 2 heures pour pouvoir danser toute la journée sans se blesser. Et du coup, moi, au bout de 5 minutes, j'étais déjà prêt avec ma guitare à faire du bruit. Du coup, ils m'ont juste demandé d'y aller un peu calmos le matin. Et ils m'ont invité, du coup, à venir faire du yoga avec eux, à s'échauffer. Du coup, c'était juste une pratique hyper... juste un truc physique, juste des postures. Et du coup, j'ai essayé, parce que ça... Alors que, bon, j'y croyais pas trop. Et ouais, j'ai eu un espèce de déclic, en fait, de conscience du corps que j'avais pas du tout. Du coup, j'ai appris les postures, voilà. Et après, en revenant à la maison, j'ai continué à pratiquer tout seul et à creuser la chose, quoi. Comme je fais un peu pour tout, quoi. C'est un truc qui m'intéresse, mais je connais personne qui s'y connaît. Du coup, je vais aller voir les livres et je vais essayer par moi-même. Et puis, je vais revenir sur d'autres bouquins. Puis, je vais creuser. Et puis je vais sûrement faire des erreurs. Je me suis fait mal à pratiquer tout seul. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, bah, il serait temps que j'ai un prof. Ou que j'ai quelqu'un qui m'explique comment bien faire le truc pour aller un peu plus loin dans la... creuser, quoi, pour progresser. Parce que c'est bien d'apprendre tout seul, mais il y a certaines choses, au bout d'un moment, tu sens que tu progresses plus. Et avec une pratique physique comme le yoga, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que ça peut te faire mal. Et du coup, je suis revenu au Portugal et j'ai découvert ce couple d'Anglais qui donne des cours de yoga dans les montagnes au Portugal, dans le nord. Et bon, c'est la première fois que je prenais des cours. Donc j'ai vu ça sur Internet. C'était sur ma route pour venir jusqu'ici. Et bon, c'était pas cher, la cuisine était végétarienne, le lieu, il y avait des animaux partout, ils avaient l'air vraiment sympas, et c'était surtout un yoga très physique, ce que je cherchais, et donc j'ai essayé, j'ai fait une semaine, et j'ai appris vraiment plein de choses, quoi. Et puis c'est devenu des amis, et puis du coup j'y retourne régulièrement. Apprendre et puis juste ouais. Aller voir des amis.
T'es devenu prof aussi?
Ouais. Ça pareil, c'était par hasard. Dire que je pratiquais ici, sur la plage, souvent le matin, dans mon coin. Et puis plusieurs personnes sont venues me demander si je donnais des cours. Et voilà, du coup, j'y avais jamais pensé parce que je pensais pas en être capable et j'avais pas envie non plus. Et puis, c'est devenu un bon moyen de subsistance pour rester un peu plus longtemps ici et revenir un peu moins souvent en France. Du coup, voilà. Du coup, je suis retourné chez mes profs au Portugal, dans le nord, dans les montagnes, pour creuser ça. Et ils m'ont appris à enseigner. Et voilà, j'ai donné des cours. Et puis les gens avaient l'air contents, du coup. Ils revenaient. Donc, ouais.
Tu veux raconter les histoires de Pablo, de Sebo et de...
Bah ouais, c'est trois chiens des rues. Trouvés ici.
Tu les photographies beaucoup aussi?
Ouais, comme je disais, je photographie les trucs autour de moi. Et bon, comme on est tous les jours ensemble, bah du coup. En fait, je les photographie pas beaucoup finalement, mais c'est juste que si je prends une photo par jour d'eux, au bout d'un moment, j'en ai plein. Donc, puis comme je les connais hyper bien, j'en ai des bonnes. J'ai fait un calendrier une année avec avant qu'on ait Pablo, avec juste les deux là, ces deux chiens qui, j'ai toujours l'impression que quelqu'un les a dessinés et puis ils sont apparus, tu vois. À chaque fois que je conduis dans mon camion et qu'ils sont assis à côté de moi, tous les gens que je croise rigolent ou sourient à avoir les deux chiens devant là, qui ressemblent à des... C'est des gros mélanges.
Tu l'as pas pris en photo ton camion?
Si. J'ai une très belle photo avec les trois chiens dans le camion.
Ah oui, c'est vrai. De l'intérieur.
Je suis dehors.
Je me souviens de quelques photos de l'intérieur.
De l'intérieur du camion? Ouais. Non, parce qu'il n'est pas hyper photogénique, en fait, ce camion. Il est très agréable à vivre, mais...
C'est quelque chose qui t'intéresse, la photogénie?
J'appelle ça photogénie, mais je sais pas, parce que j'ai pas d'autres termes, mais... joli à voir, quoi, tu vois, c'est ouais, les formes, les couleurs, ça m'intéresse.
Et le vent, ça t'intéresse
photographiquement parlant?
Ouais, ou je sais pas, je me suis posé la question, mais je cherchais autour de toi comme ça, quand tu disais que t'aimais bien photographier les trucs autour de toi.
Ouais.
Et je me disais que le vent, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup été autour de toi au long de toute ta vie jusqu'à présent.
Mmh. Tu veux pas l'enregistrer, tu veux pas l'avoir quand tu fais du surf, ou alors que dans le bon sens. Très important le vent pour le surf. Ça peut te gâcher les vagues. Et à photographier, moi, tu peux photographier que les conséquences du vent, quoi. Il y a quelque chose, Pablo? Après le vent, je sais pas. Je me suis jamais posé la question, en fait. C'est
Le vent, tu peux l'avoir de face ou tu peux l'avoir de dos?
Ouais. Il suffit juste de tourner. Ouais. Tu veux l'avoir... Ouais. C'est à double sens. C'est quoi le mieux? C'est de l'avoir dans le dos?
Je sais pas. Moi, normalement, je sais pas. Quand j'étais jeune, je préfère l'avoir de face. Parce que j'ai souvent eu les cheveux longs.
Ah oui.
Et ouais. Ça me décoiffait assez facilement si je l'avais de dos.
Mais moi, quand j'avais les cheveux longs, je préférais l'avoir de dos, je pense.
C'est vrai?
Ouais.
Mais toi, tes cheveux bouclent ou pas trop?
Un petit peu.
Donc, c'est peut-être ça aussi. Moi, comme ils sont pas super bouclés.
Ouais.
J'étais très rapidement décoiffé, quoi.
Ouais.
Et ça devait pas être plaisant, je sais pas.
Non, mais j'ai toujours préféré d'avoir de ce truc de... Quand t'as le vent dans le dos et les cheveux longs, c'est-à-dire que tu peux toujours voir, mais du coup, ça te cache aussi.
Ouais.
Tu vois, c'est pas... Ouais. Ça fait pas...
C'est pas complètement décoiffant, quoi.
Enfin, voilà, non.
je préfère l'avoir de dos quand je cours ou quand je faisais du vélo.
Ouais, voilà.
Ça, c'est bien aussi. Je sais pas.
Après, moi, en skate, tu l'as toujours de face.
Ouais.
Même s'il y a du vent, tes cheveux vont plus ou moins en arrière quand même. Quoi.
Mais t'as toujours habité dans des endroits où il y a du vent.
Où il y a du vent et où il y a la mer, ouais. Ouais. C'est un truc que je remarque même plus en fait, le vent. Enfin, si je le remarque, mais ça me. Ça m'étonne pas, quoi. C'est quotidien, tu vois, ici, là, il y a un peu de vent, même. Ça commence à farcir. Mais c'est quotidien ici, hein. Les jours sans vent sont vraiment très rares.
Tu peux me décrire ton quotidien ici, que ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à... En général, le matin, la première chose à faire, c'est aller promener les chiens ou faire du yoga. En général, j'essaie de me lever avant les chiens, si je veux faire du yoga. Alors, ça peut être une demi-heure, une heure, en général, c'est ça, ma pratique personnelle. Donc, ouais, je vais sûrement faire un peu de yoga et puis après aller promener les chiens. Sur le retour, sûrement aller voir comment est la mer. Si je vais pas les promener à la plage, bien, je vais aller promener soit à la plage, soit dans la forêt, ça dépend des jours. Donc ouais, revenir, regarder les vagues, choisir un endroit où aller surfer, et puis se mettre à l'eau, et puis revenir et manger sûrement, parce que ça commence à... En général, vers cette heure-là, après tout ça, je commence à avoir très faim. Et ensuite, j'ai déjà fait pas mal de trucs, du coup. Et quand j'arrive à, par exemple, il est 11h midi et que j'ai déjà fait du yoga, promené les chiens, avoir surfé au moins une heure, t'as déjà l'impression d'avoir la journée bien remplie en fait. Et il est pas encore midi. C'est ça que j'aime bien. Du coup, j'ai l'impression d'avoir plein de temps pour faire des photos ou bosser dessus ou faire de la musique. Et ça, c'est bien. J'aime bien ces matinées de... où tu réfléchis pas trop, c'est juste tu vas dans l'eau. Je pense que... Des fois, c'est pas terrible, mais tu trouves toujours un truc intéressant dans l'eau. Et si tu vas tôt, il n'y a pas grand monde, c'est bien. Les écoles de surf ici, il y en a plein, mais elles arrivent vers 10h, du coup. Tu vois, en ce moment, tu peux surfer facilement à partir de 6h du matin. Donc de 6h à 10h, si tu surfes 4h, c'est bien. En général, c'est... 1h30, 2h, 2h30. Après, on commence à être vraiment fatigué. Et puis, si tu surfes tous les jours, tu surfes pas des gros. Des fois, on va plutôt surfer deux fois par jour, deux fois une heure. Puis ça dépend vraiment du vent, des marées, si tu as des choses à faire ou pas, de l'ambiance, de ta condition, de tes envies. Après, l'avantage ici, c'est que comme tu peux surfer presque tous les jours, on va dire, tu deviens un peu plus difficile aussi. C'est-à-dire que si c'est pas terrible, tu vois, aujourd'hui il y a du vent, on est samedi en plus, je vais même pas essayer d'aller voir quoi. Parce que je sais que demain, ou sûrement lundi, tu pourras aller surfer sans problème. Donc voilà, je me laisse un jour de repos. C'est le week-end, c'est pour les enfants et les locaux qui travaillent la semaine et qui vivent loin de la mer. Moi, j'ai le reste de la semaine pour moi, pour aller quand je veux. Donc, et c'est clair que ça rythme les journées, en fait. Les marées, en fait. En fait, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est sûrement regarder la météo. Et après, je fais du yoga en pensant à où je vais aller surfer. C'est ça, en fait. Et donc, voilà, à peu près les journées. Donc après, j'ai passé l'après-midi à faire des photos ou en imprimer. Ou faire de la musique. Ou donner des cours de yoga, des fois. Et puis, en fin de journée, je retourne faire une balade avec les chiens. Et puis après, on rentre tous à la maison se reposer. Voilà à peu près mes journées types.